On reprend Bezrat Hashem, donc notre deuxième cours Bezrat Hashem sur le chapitre 20. Comme on est un peu moins nombreux, donc on va essayer d'analyser un peu plus, décortiquer un peu plus les concepts. Comme ça, ceux qui viendront la semaine prochaine, qui étaient en vacances aujourd'hui, ne seront pas dépaysés. Donc on va prendre, ceux qui ont le petit livre, c'est la page 50, et ceux qui ont le livre ici,
240.
D'accord, on est en plein milieu.
Combien ?
Au tout début en fait, hein, au tout début du chapitre 20. Chapitre 20.
C'est 257.
Ouais, prenez 259. Alors, pour rappel, quel est notre thème ?
C'est les Grecs.
Notre thème qu'on va expliquer maintenant ici, on va parler de la Emouna. Et on a expliqué la semaine d'avant, que toute la Torah peut se résumer à deux commandements. Ça, c'était notre point de départ. C'est quoi les deux commandements ? C'est les deux premiers commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu. Un commandement positif, un commandement négatif. C'est écrit clairement comme ça, que les deux premiers commandements, le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu, est la base de tous les commandements positifs. Le commandement, tu n'auras point d'autre Dieu, est la base de tous les commandements négatifs. Et donc, on avait expliqué, c'est la raison pour laquelle, la Gemara raconte, que les deux premiers commandements, on les a entendus en live de Dieu.
En live, on parle de Dieu, ouais.
Alors que tous les autres commandements, les Bnei Israël ont dit à Moïse, ils ont dit, écoute, toi tu vas écouter chez Dieu et on te fait confiance, que tu nous répètes, on te fera confiance. Mais sur les deux premiers commandements, sur ceux-là, on les a entendus directement d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'était important que, au moins, comme tu as dit Dan, au moins, les deux premiers commandements qui étaient les commandements principaux sur lesquels tout est basé, la base doit être bonne. Quand la base est bonne, après, même si le reste, on va développer, ça va prendre du temps, et que des fois on va comprendre, des fois on va pas comprendre, tant que la base est bonne, dans ce cas-là, c'est bon. Après, on est parti un peu plus loin. On a dit qu'en vérité,
directement les papiers là-bas.
Si on pousse un peu plus, si on pouvait résumer tous les commandements à un commandement, c'est quel commandement qu'on aurait dû dire ? C'est quoi le commandement ? Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Accepter le fait que Dieu est notre Dieu. Et c'est là qu'on arrive à Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc c'est quoi le premier commandement ? Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire je suis moi et donc pas
un autre.
Donc ça veut dire l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Si on pouvait résumer la Torah en un mot, c'est ça. C'est le premier commandement et même le premier mot du premier commandement. Anochi. Anochi en hébreu, ça veut dire quoi ? Je suis. Ça veut dire Dieu, il dit moi et pas un autre. Et là, on s'est arrêté sur ça la dernière fois.
Donc la deuxième phrase, elle n'a pas lieu d'être.
Exactement. Non, c'est pas qu'elle n'a pas lieu d'être. C'est qu'après, c'est un développement. Bah oui, puisque tu dis que je suis l'Éternel ton Dieu, donc automatiquement, tu n'en auras pas d'autre.
Bah voilà.
Automatiquement. Bah oui. C'est comme si une dame qui dit à son mari, elle lui dit, je suis ta femme.
Bah, ton éternel. Bah...
D'accord. Alors, c'est l'Éternel. C'est qu'elle n'a pas d'autre mari.
Voilà.
Bon, on est d'accord. Voilà. Mais ça ne change pas quand même que c'est important de le préciser. Mais à la base, toutes les mitzvot se résument à une seule mitzvah.
Anochi Hashem.
Anochi. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et c'est là, comme a dit Abraham, ça nous ramène au pasouk. Shema Israël, Hashem, Kenu, Hashem, Echad. Quand on demande à plusieurs gens, plusieurs personnes, on leur dit d'après vous, résumez-moi le judaïsme en un mot, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Shema Israël. C'est quoi Shema Israël ? On était resté sur une question la dernière fois. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On a dit, mais c'est quoi cette émouna là ? C'est évident qu'il y a un Dieu. Pourquoi c'est compliqué ? Est-ce que ce matin je me suis levé, j'ai dit, tiens, peut-être il y a deux dieux ? Tiens, j'avais pas pensé. C'est un challenge pour moi de croire qu'il y a un Dieu et pas deux dieux ? D'accord, il y a un Dieu alors. Si déjà le challenge aurait été de croire qu'il y a un Dieu tout court, mais de dire qu'il y en a un et qu'il n'y en a pas deux, si déjà j'accepte qu'il y en a un, j'accepte qu'il n'y en a qu'un seul. En quoi c'est un tellement grand challenge ? Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem est notre Dieu, Hashem Echad, Hashem est un, il n'y en a qu'un seul. Il y a une personne ici autour de la tête qui pense qu'il y a deux dieux ?
Non, mais pour le doute.
D'accord ?
Pour ?
J'ai compris, enfin pas qu'il y a deux, d'accord, mais n'oublie pas que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est un verset essentiel dans le peuple juif.
Ça veut dire ne cherche pas ailleurs, quoi.
D'accord, bon, alors c'est ça du judaïsme. Quelqu'un il te demande dans la rue. Excuse-moi, je réponds à sa question. Tu vas dans la rue, quelqu'un te demande, monsieur, vous êtes juif ? Tu dis oui. Il dit, monsieur, résumez-moi le judaïsme en un mot. Qu'est-ce que tu lui réponds ? Tu lui dis, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il dit, waouh, ouais. Et on n'a pas deux dieux, vous savez, on n'a qu'un seul. Ouais, bon, d'accord. Il va prendre pour un maboule. Il va dire, mais c'est ça votre judaïsme ? Parle-moi des valeurs, parle-moi de, je sais pas, d'autre chose. Ça veut rien dire, ça. D'accord ?
Oui, mais c'est peut-être aussi écrit pour les autres nations.
Bonne question, c'est un bon
pour
point.
Les autres nations, c'est ça.
Mais le problème, c'est qu'on dit Shema.
Vous pouvez être...
Qu'est-ce qu'on dit Shema.
Il s'adresse à Israël.
Israël.
Oui.
Donc c'est un message pour Israël.
D'accord, mais les autres qui disent pour les autres, ils peuvent dire...
Ok, pour les autres, certes, c'est un message.
Mais c'est un message aussi, ça veut dire que pour Israël, je suis unique.
Étant donné le contexte, oui, peut-être était-il important de préciser ainsi.
Peut-être, vous avez raison. Moi, je vous parle pour nous aujourd'hui, maintenant. Nous, aujourd'hui, qui sommes en 2015.
C'est évident, voilà, bon.
Non, c'est pas que c'est évident. C'est qu'à la limite, le challenge, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu tout court. Mais de dire, il y a un Dieu, il n'y en a pas deux, qu'est-ce que vous en pensez, Jacqueline?
Pourquoi?
Ça vous arrive un matin, vous vous levez un jour, vous dites, tiens, peut-être il y a deux dieux.
Il n'y a pas y avait à manger.
Je reste shalom. Mais c'est même pas un challenge. Est-ce que c'est un challenge? De me dire, est-ce que je vais faire la tefila ce matin? Est-ce que je vais faire la kavana? Est-ce que je vais faire comme il faut? Ça... Bon,
donne
peut-être un challenge.
Donne-lui des chiffres.
Donc c'est la question qu'on a posée, c'est la question qu'on a posée la semaine dernière. On a posé une question très simple. Et donc, on est resté sur une question, à savoir, en quoi le judaïsme se résume en un seul mot, qui est, je suis l'Éternel ton Dieu, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Pourquoi quelqu'un pense qu'il y a deux? Et là, on avait terminé en disant qu'en hébreu, pour dire un, il y a deux manières. Il y a Echad, et, non, merci, je vais pas prendre. Il y a Echad, et il y a Yahid. D'accord? Echad en hébreu, ça veut dire, allez, on va faire un peu d'ulpan. Echad en hébreu, ça veut dire un. Yahid en hébreu, ça veut dire
unique.
Unique. Quelle est la différence en français entre un et unique?
Un, c'est un seul unique.
On va commencer par un. Si je dis que Dieu est un, ça veut dire quoi Dieu est un?
Dieu est...
Ça veut dire qu'il peut en avoir deux. D'accord? Quand je dis j'ai un cracker, voilà, je prends un cracker, je dis j'en ai un. Bah, c'est-à-dire que là j'en ai un, mais j'aurais pu en avoir deux.
Ah oui,
mais si je dis ce cracker est unique, ça veut dire qu'il ne peut pas en avoir deux.
Il y en a qu'un.
Il y en a, non, pas seulement qu'il y en a qu'un. C'est qu'il y en a qu'un, et il peut en avoir qu'un.
Oui. Mais il peut y en avoir aussi un.
Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on dit dans le chemin Israël? On dit chemin, bonjour. Oui, alors je peux passer vous voir, vous êtes là jusqu'à quelle heure? Ah d'accord, parce que là je finis le cours dans environ une heure.
Bon.
Tu veux le donner, En gros, vous laissez... Là, on va terminer ce soir à 22h. Voilà. Tu veux lui donner les horaires, Marcel? Il va vous donner les horaires.
Pour
deux jours? Je sais pas, pour la suite. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Oui, mais quitte pas le... Ok. Alors, je reprends.
Je crois qu'ils étaient partis, qu'il y en avait.
Non, mais ça dépend pour les écoles, pour les... Donc, je reprends. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Puisqu'on vient d'expliquer que Echad, ça veut dire un, Yahid, ça veut dire unique. Dieu est un ou unique?
Unique.
Qu'est-ce que tu penses, David? Dieu, il est un ou unique? Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Regarde, quand on dit qu'une personne a un fils, et quand on dit qu'il a un fils unique, c'est la même phrase que je viens de dire?
Non.
Pourquoi c'est pas la même phrase? Attends. Pourquoi c'est pas la même phrase? Parce que quand je dis qu'il a un fils, c'est-à-dire que maintenant il a un, mais il peut avoir deux.
Non. Oui. Il a un fils, mais il peut avoir une fille.
Voilà, il peut avoir une fille, il peut avoir autre chose. Mais c'est pas unique. Il n'y a pas l'exclusivité. Quand tu dis unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a l'exclusivité. Alors, quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. D'accord? 13h30. Normalement, on aurait dû dire Hashem Yahid.
Ah oui.
Dieu est unique. Or, on dit Hashem Echad, Dieu est un. Pourquoi? Il y a un problème.
Ah oui.
Comment ça marche? Hein?
Qu'est-ce
que vous en pensez, Jackie?
Éteint,
avec nous? Mal à la tête?
C'est inquiétant, là.
Non.
Comment ça marche?
Dieu est un.
Donc on a peut-être mal compris le chemin Israël.
Ah oui.
Parce que si tu dis que le but du chemin Israël, c'est simplement de te raconter qu'il y a un Dieu et qu'il n'y en a pas deux, dans ce cas-là, on aurait dû dire l'Éternel est unique. Puisque le verset n'a pas dit ça, ça veut dire que c'est pas le but du chemin Israël. Le but du chemin Israël, c'est pas simplement de te balancer, de te dire, bah, tu sais, il y a un Dieu, il n'y en a pas deux. Ça, c'est pas un challenge. Non. Le but du schéma Israël, c'est de te parler de la notion de Echad. De la notion que Dieu est un, mais que, en vérité, Dieu et toute l'humanité forment un seul élément. Mais ça, on va développer tout de suite, parce que c'est une notion qui est assez compliquée. D'accord? Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. On va lire ensemble. Alors là, on va développer. On va prendre la page 259 où les vers étaient. Je vais reprendre quelques lignes. On va accélérer un peu dans le texte et on va décortiquer. Alors, ne soyez pas étonnés si pendant quelques lignes vous allez être largué, même pendant quelques minutes. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Même si vous décrochez, on va raccrocher si Dieu, il n'y a pas de problème. Non, je préfère vous... Hein ?
Je vous expliquerai.
Non, on va expliquer. Non, on va tout expliquer, mais vous inquiétez pas. Moi, la première fois que j'ai étudié à la Yeshiva, j'ai décroché plusieurs fois.
Ah ouais, toi, c'est
voilà.
Un nouveau carrément.
Quand on avait 13 ans, je me rappelle, on étudiait avec le Rav Pinson, plusieurs fois on décrochait parce que c'était des notions compliquées. Bon, vous êtes plus âgé, donc vous rattachez, il n'y a pas de raison. Ok, donc on va essayer de s'arrêter sur les notions importantes dans les mots. 259. Où les vers étaient ignanzé, pour comprendre ça, donc pour bien expliquer ce concept-là, dit tsarich le askir tri la biktsara, il faut d'abord expliquer biktsara, ça veut dire au moins en raccourci, au moins expliquer rapidement, succinctement. Inyan ou maout ardoute chez la kadosh baruchu. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que on parle de l'unicité de Dieu? C'est quoi? Shenikra yachid ou meyuchad. D'un côté, on voit que Dieu est appelé unique. Et meyuchad, ça veut dire qu'il irrompt, ça veut dire que personne peut être comme lui. Jeudi soir, 20h30. D'accord? Vechol ma'aminim sheu levadou kemo shaya kodem shenivra aolam shaya hu levado. En fait, on peut résumer ça à une phrase de la tefillah de Shacharit. Dans la tefillah de Shacharit, on dit une phrase, on dit Atahu. D'accord, merci. Dans la tefillah de Shacharit, on dit Atahu Atchelonivra Aolam, Atahu Mishinivra Aolam. Toi, Dieu, tu es le même avant que le monde ait été créé, tu es le même après que le monde ait été créé. Comment vous comprenez cette phrase?
C'est normal, il ne change pas.
Il change pas?
C'est l'alpha et l'oméga.
Attendez, ça veut dire quoi il change pas?
Comment on peut savoir?
Pourquoi il changerait?
Attends, je pose une question. Imagine-toi que la pièce est vide.
Il est
immuable. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit il est immuable. J'ai dit il reste le même avant de créer le monde, après créer le monde. Mais il peut pas rester le même. Parce qu'avant il n'y avait pas de monde, maintenant il y a un monde.
Oui, mais.
D'accord? Donc avant il n'y avait pas de monde, donc il n'y avait personne qui avait des comptes à lui rendre et donc il n'y avait personne qui pouvait lui faire un affront. Maintenant il y a un monde, donc il y a des gens qui peuvent lui faire un affront.
Ouais, mais tu as dit la dernière que.
Que quoi?
Que Dieu n'est pas influencé par le monde.
D'accord, il n'est pas influencé par le monde, mais on peut pas dire que Dieu est resté le même avant le monde et après le monde. C'est pas possible.
Pourquoi?
Parce que c'est pas possible. Parce
il n'était pas en contact avec l'homme, donc il n'avait rien à voir.
Il n'existait pas.
Alors, monsieur Benita, je parle pas de l'homme, je parle du monde. Avant que Dieu crée le monde, qui c'est qu'il y avait sur Terre?
Il n'y avait pas de Terre.
Il n'y avait pas de Terre, il n'y avait personne, il n'y avait que lui. Maintenant, il a créé une entité qui s'appelle la Terre. Cette entité qui s'appelle la Terre peut lui faire de la résistance à Dieu. La preuve, c'est que je peux faire une avéra.
Et on peut l'offenser.
Et je peux l'offenser. Il s'énerve. C'est écrit dans le commandement, non? Donc ça veut dire, je peux pas dire que Dieu est le même avant et après. Avant, il était seul, maintenant, il est plus seul. Comment ça marche que ce qui est écrit dans le fil-là, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi. Shalom, comment ça marche? Encore une fois, on a peut-être mal compris. On a mal compris. D'accord? En fait, quand on dit que Dieu est le même, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'en vérité, Dieu reste toujours un. Écoutez bien, c'est très puissant ce qu'on va dire. Vous allez me prendre pour un fou après ce que je vais dire, mais c'est pas grave, on va développer. Quand on dit que Dieu n'a pas changé, c'est-à-dire que Dieu reste un. Et qu'il n'y a aucune entité qui est différente et qui est séparée de Dieu, ça n'existe pas. Vous allez dire, comment c'est possible? Voilà, il y a nous, il y a moi, il y a toi, voilà, juste ici autour de la table, on est 10. D'accord? Alors, on est 10. Il y a 10, déjà juste autour de la table. Il y a 10 plus Dieu. Te dis maintenant. Tu sais, nous en vérité, on est des entités qui font partie de Dieu.
Oui.
Ça veut dire qu'en vérité, on est tous
composante.
Des petits
dieux. Une
composante. Ah, justement. Ah, attention. C'est plus une composante. C'est là que je reviens à Echad.
Un élément important.
Parce que si tu dis que c'est une composante, il y a des composantes qui sont plus importantes que d'autres.
Un des éléments.
Mais non, parce qu'encore une fois, si tu dis que c'est un élément, c'est-à-dire que si on enlève l'élément. La machine, elle se casse.
Elle fonctionne différemment.
Exactement. Or, c'est ça le problème. Le problème, ça c'est un grand sujet de pensée juive qu'on est en train de dire ici. Un grand sujet de pensée juive qu'on te dit ici qu'en vérité, Dieu est toujours resté un. Et pas seulement un composé de plusieurs. Non. Il est un. C'est-à-dire qu'il a toujours été un et il reste toujours un. Et j'ai même pas besoin de dire qu'il est unique. Parce que quand je dis qu'il est unique, ça veut dire quoi? Unique par rapport à d'autres choses. C'est-à-dire, lui, il est unique par rapport à d'autres choses. Il n'y a pas d'autre chose. Dieu, il était un, il reste un, et il n'y a rien à part lui. Comment c'est possible? Je comprends pas, on est tous différents, là. On est 10 personnes autour de la table, on pense pas la même chose. Alors,
on parle pas de la même chose. On va pas comparer.
Oui, j'ai compris, mais on est en train de dire qu'on fait tous partie de l'unicité de Dieu. et que la table qui est devant moi, la chaise qui est devant moi, Monsieur Benita, son fils, d'accord, Serge Chimenu, tout le monde, on fait tous partie d'un grand élément qui s'appelle Dieu.
C'est un dévoilement de Dieu. C'est
une... Ah oui, mais attends, mais j'ai compris, mais concrètement, dans la réalité, c'est pas comme ça.
C'est pas évident.
Exactement, très bonne question. Et la question que Serge Chimenu, qui est une question très très compliquée, il dit, mais attends, dans ce cas-là, si tu me dis qu'on fait tous partie d'une entité qui s'appelle Dieu, ça veut dire que quand je fais une avéra, qui c'est qui fait l'avéra? C'est Dieu qui fait l'avéra.
Ah, il a raison. Ah non, tu parles
bah oui.
De responsabilité.
Oui, bah, attendez.
Non, c'est pas si bon, on n'a pas compris.
Non, mais attends, excuse-moi, Serge, puisque tu es dans les voitures, d'accord? Quand tu as une voiture, d'accord, qui roule, et que bon, le pare-brise, il va cogner, on dit que c'est le pare-brise qui a cogné ou c'est la voiture qui s'est cognée?
Pare-brise, c'est le chauffeur.
Oui, d'accord, mais j'ai compris, mais concrètement.
Oui, c'est la voiture,
le chauffeur va dire, ah, c'est pas moi, c'est le pare-brise.
Non, c'est la voiture, la voiture.
C'est la voiture.
L'élément qui a dégazé.
D'accord, alors c'est la même chose. Tu dis que tout ça, c'est un élément qui s'appelle Dieu. C'est qui le chauffeur ici? C'est qui le pilote? C'est Dieu ou pas?
Y a-t-il un pilote?
Alors, mais bien sûr qu'il y a un pilote, c'est Dieu. Alors ça veut dire quoi? Alors quelle valeur ça m'a mis, quelle valeur ça m'a verra? On remet tout en cause là. Là on commence un petit peu à comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Attendez, je vais expliquer. C'est quoi le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Ça veut dire qu'on s'adresse à un juif et on lui dit, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem est notre Dieu, mais ne crois pas que toi tu es un élément différent de Dieu. Hashem Echad. Dieu est un, ça veut dire ne crois pas que tu es différent de Dieu, ne crois pas que tu es séparé de Dieu, ne crois pas que tu es indépendant de Dieu. La émouna qu'un juif doit avoir, et ça c'est très compliqué, c'est pas seulement qu'il est croyant, c'est le fait qu'il n'y a aucun élément sur cette terre qui échappe à Dieu. Pas seulement qu'il échappe, ça ne peut pas échapper parce que ça fait partie de Dieu. Ça c'est beaucoup plus compliqué. Tu comprends? Quand tu as une galère qui t'arrive dans ta vie, une galère, une personne qui t'a insulté, une galère qui arrive dans ta vie, quand tu dis finalement... Il n'y a rien qui est indépendant de Dieu. Donc tu vois ce remar là qui m'a embêté. En vérité c'est Dieu. Lui c'est Dieu. C'est Dieu qui vient de m'embêter là.
Il s'est embêté.
Attends, doucement. Dieu m'a embêté. Ça va.
Oui.
Il s'est embêté tout seul. C'est ça. C'est la main droite qui a frappé la main gauche. Comment ça marche? Mais ça, juste deux secondes. Je termine le raisonnement. Ça veut dire que ça, c'est un raisonnement qu'on t'explique que là on commence à comprendre comment dans ça on a le résumé du judaïsme. C'est quoi le judaïsme? Le but du judaïsme, c'est quoi? C'est dans chaque chose essayer de retrouver comment tout tourne autour de Dieu. Vous savez qu'il y a des halakhot, même quand on va aux toilettes, même quand tu vas aux toilettes, il y a des halakhot qui dit attention,
oui,
le pantalon, pas trop bas, pas trop petit, d'accord, les brachas avant, les brachas après, enfin, il y a des halakhot. Mais attends.
Zéro.
Je vais aux toilettes. Vous connaissez, vous, d'autres religions dans lesquelles il y a des lois quand on va aux toilettes?
J'ai même pas les mains.
Quel rapport entre les toilettes et la religion? C'est quoi la religion? C'est quoi le judaïsme? Dans le judaïsme, on t'apprend qu'il n'y a aucun élément qui peut échapper à Kadosh Baruch Hu.
Tout le monde,
même les terroristes, tout le monde. C'est sérieux. Ça, il faut savoir, on va le développer dans la suite, mais ça, il faut savoir que c'est un sujet sur lequel le Baal Shem Tov a été très critiqué.
Merci.
Ce que je suis en train de vous dire ici maintenant. C'est un sujet sur lequel le Baal Shem Tov a été très critiqué. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde pense comme ça. Mais à l'époque où il disait, il était très critiqué. Par exemple, il y avait le Gaon de Vilna qui posait
qu'est-ce
la question.
Qu'on pensait alors,
ah bon, on écoute bien. Le Gaon de Vilna posait la question. Il dit, est-ce que ça veut dire que Dieu se trouve dans une poubelle? Bah, si t'as une poubelle dehors. Dieu, il est là-bas aussi, alors. Dieu, il est dedans, c'est Dieu, ça?
Dans les êtres vivants.
Dieu, il est dans les toilettes? Dieu, il est dans une maison prostituée? D'accord? Ça, c'était la question. Et concrètement, le Baal Shem Tov défendait la vie, qui disait que non. Et exactement, il ramenait le mot du Zohar. Et bien, après, on a vu que l'élève du Gaon de Vilna, donc certainement le Gaon de Vilna aussi a changé sur ça, l'élève du Gaon de Vilna, dans celui de Nefesh HaChaim, il est revenu sur ça. Et il dit comme le Baal Shem Tov. Il amène le mot du Zohar, comme tu as dit Yves, Leit Atar Panumine. Le Zohar dit clairement, il dit, il n'y a aucun endroit dans le monde qui est vide de Dieu. Ça n'existe pas. Tout est Dieu. Donc quand on dit Hashem Echad, c'est pas seulement qu'il y a un Dieu. C'est que tout est Dieu. C'est ça, Hashem Echad.
Entre Dieu est partout et tout est Dieu, il y a une différence.
Justement, c'est beaucoup plus fort. C'est pas seulement que Dieu est partout. C'est que tout est Dieu. Quand on dit Dieu est partout, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un PDG qui a son mot à dire sur tout. C'est pas ça ce que je dis.
Dieu est partout.
Non.
Il n'y a pas d'endroit où il n'est pas.
Il n'a pas dit ça. Non. Il a dit. Il n'y a pas d'endroit qui est vide de lui. Non, mais attends.
Donc,
ça veut dire que Tout est à Kadosh Baruch Hu. L'Hashem Yichud Kutshav Baruch Hu Shrinte. Oui.
Je dis simplement que je vais faire Shema Israël maintenant.
Oui.
Au lieu d'avoir de penser au moment où il dit Echad, de penser aux quatre points cardinaux, il est là.
Exactement.
Je vais me regarder, je vais dire bon Dieu.
Eh ben exactement, il a tout compris.
Non, non, je sais pas, je pose.
Il a raison. Il dit que. Je vais expliquer. D'accord. Non, je vais expliquer ce qu'il a dit. Il dit en vérité, les gens quand ils pensent Shema Israël, c'est écrit en Shulchan Aruch. Quand ils disent Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, à quoi ils pensent en général? Ils disent oui, Dieu est un, d'accord, c'est le roi de l'univers, etc. Il a pensé à l'univers, tu vois, il a pensé à l'univers, à tout le monde, sauf penser à lui. Alors qu'en vérité, le but du Shema Israël, c'est de parler de qui? On parle pas des autres.
Non,
c'est pas de dire il est là-bas, il est à Tombouctou, il est là-bas. C'est de parler de moi. De dire moi, je me pose la question, est-ce que j'ai réalisé qu'en vérité, tout ce qui arrive ici autour de moi, c'est Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. Et le but du judaïsme, c'est ça. C'est de comprendre que je vais au boulot, c'est pour Dieu. D'accord? Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Et ce que j'essaye de faire, c'est simplement essayer d'être un bon outil dans la main de Dieu. Et c'est très compliqué à croire ça. Parce que ça veut dire que, à aucun moment, je peux échapper à Dieu. C'est pas du style, bon, là, je suis à la synagogue, après, bon, on prend des vacances, hein. Prends des vacances. Tiens, ça va. Fais une pause. Et bien, Dieu peut t'accorder une pause. Il n'y a pas de pause. Il peut pas avoir de pause. Parce que Hachem, Echad. Dieu est un, ça veut dire quoi, Dieu est un? Ça veut dire que tout est à Kadosh Baruch Hu, et donc, il n'y a rien qui peut échapper, il n'y a rien qui peut échapper à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il précise. Ça, c'est écrit, Atahu Atchelo Nivra Olam, Atahu Shinivra Aolam. Comme c'est écrit, Adon Olam Asher Malach, Beterem Kol Yetzur Nivra. Traduction. Adon Olam, le maître du monde, Asher Malach qui a régné, Beterem Kol Yetzur Nivra, avant que toute créature soit créée. Adon Olam. D'accord, vous la connaissez, la chanson. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire là? Je l'ai chanté, mais qu'est-ce que je
ça,
répète.
Ça veut dire que Dieu, il a existé avant.
Non, j'ai pas dit ça.
Non.
Mais c'est ça.
Bah non, c'est parce que j'ai dit le maître du monde. Ah, c'est quoi un maître? Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise des gens. Asher Malach qui a régné. Beterem Kol Yetzur Nivra avant que toute créature ait été créée. Oui. Mais je comprends pas.
Il régnait quoi?
S'il n'arrête pas.
C'est pas de créature.
On a dit, ouais.
Parce que le roi a besoin de sujets. S'il n'y a pas de sujets, sur qui veut qu'il règne? Comme j'avais dit la dernière fois, je dis, il y a des gens, ils sont chez eux à la maison, ils disent, je suis le roi du monde. Même sa femme, il n'arrive pas à dominer, qu'est-ce qu'il a dominé le monde?
Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien entendu.
Il a dit, il est où le roi du monde?
C'est qui le roi du monde? Il comprenait le problème.
En fait, il te voyait pas, c'est pour ça.
Alors,
il était inquiet.
Vous comprenez le problème qu'on a ici? On a un problème. Ça veut dire quoi que Dieu a régné? Dieu a régné avant que tout soit créé. Mais si rien n'était créé, rien sur quoi? Qu'est-ce qui veut nous faire passer ce piyut? D'ailleurs, vous savez que ce piyut est un piyut très important, le piyut d'Adon Olam. C'est écrit que celui qui a la canne, je vous donne une combine. Celui qui fait Adon Olam avec Kavana à Rosh Hashanah et Yom Kippour, il a une garantie d'Akadosh Baruch Hu qui sera protégé toute l'année. Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ne ratez pas Adon Olam. Voilà. Mais avec Kavana. Ça veut dire, avec la traduction. Voilà. Je vous donne la technique pour le prochain Jana. L'année dernière, j'essaierai de vous le rappeler. Amen. C'est une technique qui est écrite au nom de, on dit ça de mémoire au nom de Rabbeinu Yonah. Que Adon Olam, ça, c'est des trésors extraordinaires qui sont dedans. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit que Dieu a régné avant que tout ait été créé. Comment, dans ce cas-là, sur qui il a régné? Comme vous avez tous posé la question.
Je ne sais pas.
Qu'est-ce que disent les commentaires? Les commentaires disent en vérité que Akadosh Baruch Hu est un roi qui n'a pas besoin de sujet. Il n'a pas besoin de sujet pour régner. Parce que si tu dis qu'il a besoin de sujet, ça veut dire qu'il a besoin de nous. Dieu a besoin de nous?
Non.
Si tu dis qu'il a besoin de nous, c'est-à-dire que sans nous, il est incomplet. Dieu sans nous, il est incomplet?
Non.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de là, on comprend que Dieu est un roi qui règne sans sujet. Comment c'est possible? J'en sais rien comment c'est possible. Pourquoi j'en sais rien? Parce que je vais pousser un peu plus loin. Excusez-moi, je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Cette logique qui m'explique dans ma tête que c'est pas possible de régner s'il n'y a pas de sujet.
Mais il règne aussi sur tous les
alors,
éléments.
Attends, juste deux secondes, je peux arriver au bout du raisonnement.
La terre, enfin bon.
Cette logique qui me permet d'arriver à la conclusion que c'est pas possible de régner s'il n'y a pas de sujet, qui c'est qui a créé cette logique? C'est Dieu. Si je vous dis par exemple, 1 plus 1, ça fait combien?
2. 3.
Qui vous dit que ça fait pas 3?
Ça dépend.
Qui vous dit que ça fait pas 3?
Combien tu veux que ça fasse?
Hein?
Ah, rien, ça fait 11.
Dis-moi, je te dis.
Qui te dit que ça fait pas 3? Qui c'est qui a créé cette logique? Qui c'est qui a créé cette logique? La logique que 1 plus 1 est égal à 2.
Mais qui dit le contraire?
Attendez. Qui a créé cette logique? Il y a une logique qui a été créée. Dieu, il a créé un cerveau. Dieu, il a créé la nature, il a créé l'homme, il a créé le cerveau de l'homme. Il a créé la logique humaine. Et dans la logique humaine, il a créé que 1 plus 1 est égal à 2. Dans la logique humaine, il a aussi créé un concept que pour régner, il faut des sujets. Mais ça, c'est une logique qui a été créée par l'homme. Enfin, qui a été créée par Dieu, pardon. Mais c'est une logique qui a été créée. On peut imaginer qu'avant que cette logique ait été créée, et donc quand on est plus haut que ça, il n'y a pas besoin de sujet pour régner. Alors, comment c'est possible? J'en sais rien.
Alors, si, ce qui pourrait...
Vous savez, je termine avec ça, parce qu'il y avait des questions, il y avait plusieurs questions. Il y a un mot très fort, je crois que c'est de Rabbi Shimshon de Kino qui disait comme ça. Il disait, si je comprenais Dieu, j'aurais été Dieu. Vous me suivez?
Mm-hmm.
Non. Ça veut dire, si tu es capable d'arriver à comprendre Dieu, ça veut dire que tu peux être Dieu toi-même.
Si tu arrives à son niveau, donc...
Si tu arrives à te mettre au niveau du créateur, ça veut dire que tu peux être créateur toi-même.
Mm. Une personne...
D'accord. C'est impossible. Un objet créé ne peut jamais se mettre à la place du créateur. C'est pas possible.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Qu'on comprend pas. On comprend pas comment c'est possible que Dieu, c'est un roi qui règne sans sujet. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le but de Hachem Echad, c'est quoi? Hachem Echad, c'est de comprendre, comme a dit Yves à juste titre, c'est de réaliser au fond de soi l'unicité de Dieu. C'est-à-dire que tout tourne autour de Dieu, tout est Dieu. Pas seulement que tout tourne autour de Dieu, tout est Dieu. Il y a rien qui n'est pas à Kadosh Baruch Hu. J'ai devant moi un gâteau. Pourquoi, par exemple, quand je prends ce gâteau, je vais faire une beracha? Pourquoi je fais une beracha? Pour dire quoi? Pourquoi je fais une beracha? Pour dire merci Hachem? Non, pas seulement ça. Dans ce cas-là, j'aurais dû dire Toda Rava. Pourquoi je dis Baruch Atah?
Ouais.
C'est quoi Baruch? Béni sois-tu. Pourquoi je le bénis? Pourquoi je dis pas merci? Pourquoi je le bénis? Quel rapport avec ta bénédiction?
Il a besoin de...
Moi j'ai besoin de bénir Dieu. Approche le béni. Comment ça marche? Excuse-moi, d'accord?
Mais
comment ça marche? La réponse est très simple. Écoutez bien. C'est que quand je fais une beracha, je réalise que ce gâteau-là, en vérité, que ce cracker-là que j'ai devant moi, que j'ai dans ma main, ce cracker-là n'est pas un élément indépendant qui est là et que j'ai décidé de prendre. Cet élément, c'est Dieu. Et quand je vais le manger, il y a une étincelle divine dedans qui va s'approcher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, qui va remonter vers Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Et ça, il faut se le mettre dans la tête, qu'il n'y a rien qui échappe à Dieu. Ni quand je fais une Avera, ni quand je fais une Mitzvah. Et là, je vais aller plus loin. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils ont fait une Avera, ils sont éloignés de Dieu. Eh bien, je vais vous dire, Dieu, on ne peut pas le quitter. Il ne vous lâche pas, parce que vous êtes lui et lui, c'est vous. Seulement, vous pouvez l'énerver. Mais c'est comme si, imaginez par exemple, vous avez votre cœur qui vous fait mal. Tu peux dire, ah ben il m'énerve, mais il t'énerve, mais il est là, il bougera pas, il est là pour rester là. Il bougera jamais, il est là. Ben c'est la même chose. Les gens, ils pensent qu'ils ont fait une avéra, c'est ils sont éloignés de Dieu. On s'éloigne pas de Dieu. On peut s'éloigner de Dieu ni en faisant une mitzvah, ni en faisant une avéra, ça n'existe pas s'éloigner de Dieu. On peut plus réaliser qu'on s'approche de Dieu, mais s'éloigner on peut pas. Pourquoi? Parce que Hachem est rad. Hachem est un, ça veut dire que tout est Dieu. Donc c'est impossible de se détacher puisque tout est un seul élément. En vérité, je termine ce point-là, après les questions, je vois qu'il y a plusieurs questions. Remarque que plus la science avance, plus la science nous aide à comprendre cette notion-là. Ouais. Regardez.
Ah oui.
On avait fait un cours, ça fait quelques semaines sur ça, sur quelques mois, quand on était à la parachute noire. On avait parlé ce vendredi soir. Vous voyez ce cracker que j'ai dans ma main? Imaginez, ça fait 2000 ans, si on avait dit à quelqu'un, tu sais, ce que dans ce cracker-là, il y a
d'accord?
Ah, mais attendez, regardez ce cracker, vous voyez, dans ce cracker-là. Imaginez que ça fait 2000 ans, on aurait dit à quelqu'un, tu sais, dans ce cracker, il y a de la lumière.
Merci.
Qu'est-ce qu'il aurait pensé de moi?
Merci.
Il t'aurait voulu vivre, il voulait vivre les boules avant.
T'es avec nous ou pas?
Dans la suite, hein?
Qu'est-ce qu'il aurait pensé de moi?
Bah, il t'aurait traité de
fou. Il m'aurait dit, je suis fou.
Illuminé.
Il m'aurait pris pour un illuminé. Très bien.
C'est ce qu'il faisait avant.
Mais ça, c'est le Zohar qui le dit. Le Zohar dit que tout est lumière.
Attends, qu'est-ce qu'il y a dans le cracker?
D'accord. La lumière.
La lumière.
D'accord.
Vous allez, c'est bon, vous allez m'interner?
C'est autre chose, ça va.
Hein? Donc. On m'aurait interné. D'accord. Maintenant, regardez. Avec les développements qu'on a fait dans la science, les avancées qu'on a fait dans la science, on est arrivé progressivement à décomposer la matière. On décompose. Et vous voyez que tous les quelques mois ou les quelques années, dans les revues scientifiques spécialisées, on te dit, ah ben on a trouvé encore un élément encore plus avancé.
On va dans infiniment petit.
Voilà. Et à la fin, c'est quoi? Mais à la fin, c'est quoi? C'est quoi à la fin, quand on arrive à la fin? Le dernier élément que vous connaissez, quoi? C'est la lumière. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un dans ce cracker de la lumière, il n'est pas choqué. Il n'est pas choqué de ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit la lumière, vous savez, quand on dit la lumière, on parle d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant, le chemin qui nous reste à faire peut se rattacher quand Mashiach va venir. Pour qu'on réalise que derrière cette lumière, il y a un Dieu qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et qu'en vérité, toute l'humanité, c'est un seul élément qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Ça ne nous choque plus vraiment. Je ne sais plus quel scientifique disait, d'accord? Enfin, moi, j'ai pas fait ça à l'école, mais je ne sais plus quel scientifique disait qu'en vérité, on pourrait condenser toute la matière du monde
dans
la tête d'une épingle. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez entendu ça, Serge?
Oui.
C'est des gens sérieux, hein, c'est pas des vous.
Si on fait abstraction du vide.
D'accord? Que si on fait abstraction du vide, on pourrait concentrer toute la matière dans le chat d'une aiguille. Ah, Il est choqué, lui. Hein. Toute la matière, toutes. Les astres, tout.
La terre, l'or.
Tout.
Même si le bon, tu mets
l'or. Même les sons, tu vois, les sons qu'on envoie. Les sons qu'on envoie, qui prennent plusieurs années pour arriver, qui sont même pas encore arrivés. D'accord? Et ils vont à, je sais pas combien, milliers de kilomètres à l'heure. C'est énorme, c'est gigantesque. Et ben, tout ça, si on enlève le vide, on aurait pu réduire cela à combien? Le chef d'une aiguille. Et encore, c'est ce qu'ils disent maintenant. Mais dans quelques années, ils vont réduire ça encore. Ça veut dire que quand on te dit maintenant, moi ça me choque plus maintenant, quand le Zohar te dit qu'en vérité tout est Dieu, et que c'est un seul élément qui s'appelle Dieu, ça me choque pas. Je vous dis, regarde, même les scientifiques ils te le disent. C'est pas que j'avais besoin d'eux. Mais c'est pour dire qu'on voit un exemple ici, comment la science nous aide à comprendre la Torah. Que, voilà, même les scientifiques te disent, ils te disent que toute l'humanité, toute la matière, toute l'existence, même des choses qu'on n'a pas trouvées, peut se réduire au chef d'une aiguille.
Ça veut dire quoi? Donc, tout est...
Ça veut dire que... Après, il y a des notions que... Il y a la notion de la création du vide, il y a la notion de... On appelle ça du... D'accord. Il y a la notion que le mouvement crée la matière, etc. Tu vois le cracker que tu touches, là? Tu touches le cracker. Tu vois, tu touches. Il est dur? Est-ce qu'il est dur? Il est dur? Eh bien, en vérité, c'est de la lumière. Tu sais pourquoi tu sens qu'il est dur? Parce que les électrons, d'accord, ils sont en train de tourner, et ils tournent tellement vite que ça devient dur. Tu comprends ce que je veux dire?
C'est
prouvé, oui, c'est prouvé.
Ça tourne vite dans le
mais évidemment. C'est pas seulement que c'est prouvé, c'est qu'avec comment on fait une bombe atomique? C'est quoi la bombe atomique? Comment ça marche la bombe atomique? C'est toi notre spécialiste.
Dan Kadosh.
Comment ça marche la bombe?
Notre spécialiste scientifique.
C'est une réaction en chaîne.
Qu'est-ce qu'on fait? Mais comment faire une bombe atomique?
On réduit au minimum.
On casse un atome.
On le casse.
D'accord? On casse. Et quand tu le casses, tu arrives à quoi? T'arrives à la lumière, t'as une explosion.
C'est la fission nucléaire.
D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ce que je veux vous montrer par ici, c'est pas pour vous embrouiller, d'accord? C'est pour montrer que ce qu'il est en train de te dire ici, c'est que toute l'humanité, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il faut pas se fier à ce que mes yeux regardent. Même si mes yeux, ils disent, mais non, pas du tout, il y a des millions de kilomètres, etc., qui sont encore le chef d'une aiguille. Et ça ne change pas que la science te dit aujourd'hui que tu te trompes, c'est une erreur. Qu'en vérité, tout ça, c'est un seul élément. Donc la même chose. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le monde et que le monde, c'est Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'aller voir le monde. Le monde, c'est lui. Tout est Akadosh Baruch Hu. Ok. Alors, il y avait plusieurs questions maintenant, et après, on va avancer. Il y avait plusieurs questions. Est-ce que vous avez oublié vos questions?
Non.
Ok, alors allez-y. J'ai eu plusieurs qui voulaient intervenir.
Tu as parlé d'un roi.
Oui.
Ce sujet.
Oui.
Donc, c'est une définition qu'on a de la royauté.
Mais on a expliqué que Dieu est un roi qui peut régner sans sujet.
C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est une autre définition de
C'est une autre définition. On sait que Dieu s'appelle roi parce qu'on l'appelle le roi, mais c'est pas un roi comme nous. Parce que chez nous, un roi qui n'a plus de sujet n'est plus un roi.
Il existe.
Alors que Dieu, c'est la majesté par excellence, qui n'a pas besoin de sujet pour être roi. C'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est classe pour qu'il soit classe. Il est classe, c'est tout. C'est dans l'âme. Tu comprends?
Voilà. La phrase. Adonai Olam.
Oui.
Donc il dit, je suis le maître du monde.
Non, c'est pas Dieu qui dit ça.
C'est nous.
C'est nous qui avons composé ce piyout. Qui dit Adon Olam Asher Malach, Beterem Kol Yitzonivra. Le maître du monde, Asher Malach qui a régné, Beterem Kol Yitzonivra avant que toute créature soit créée.
Ouais.
D'accord? Ve'acharei Kichlot Hakol, et même quand tout sera terminé, Levado Imloch Nora. C'est lui qui continuera à régner de manière redoutable. Ça veut dire, il était roi avant, il était roi après. D'accord? Ve'hu Aya, il était, Ve'hu Ove, il est, Ve'hu Yé, et il sera, Betif Ara, toujours dans la gloire. C'est-à-dire, continuer. C'est-à-dire que tout le Adon Olam, il est là pour illustrer une idée.
Oui, mais là,
c'est que le monde n'a rien changé en Dieu.
D'accord, mais là aussi, on peut se poser la question. Quand il dit que Dieu, il y aura plus rien, et il va régner, alors là aussi, on peut poser la question. Il va régner sur quel sujet? Il n'y aura plus personne.
C'est ce que je dis, c'est que pourquoi nous, on bloque? Parce que nous, avec la logique humaine, un roi est égal à des sujets qui acceptent un roi. S'il n'y a pas de sujet qui est un roi, il peut régner sur
alors,
Dieu.
Alors on peut aussi...
Ça, c'est la logique humaine. Mais en vérité, on te dit que Dieu n'est pas un roi comme ça.
Alors,
Dieu...
est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'avant ce monde-là, il y a eu d'autres mondes qui ont existé, donc il a régné sur les mondes qui étaient avant.
Non. Non. On dit « Beterem kol yitzonivra » avant que toute créature soit créée.
C'est-à-dire ce monde comme d'autres mondes.
Comme d'autres mondes, exactement. Je rentre pas dans ce thème-là. Mais ça veut dire qu'il a régné un monde. Bon, on est parti un petit peu, on a ouvert un peu d'une grande parenthèse, mais c'est pas grave, je voulais développer cette parenthèse-là, parce que c'est un sujet, je pense, qui est très important. C'est une question que les gens se posent souvent, ça. Alors, dans les mots.
On n'a pas répondu, c'était quoi Dieu?
Alors justement, c'est ce qu'on a répondu. C'est quand on dit c'est quoi Dieu, il y a les gens, ils pensent, il y a Dieu et il y a moi. Non, je suis Dieu. Je suis Dieu. Chacun de nous est une partie de Dieu. Et ça nous choque pas, ça. Cette idée, quand on dit par exemple que, ça veut dire que, je vais pousser plus loin que ça. Les gens, ils pensent qu'il n'y a que la Neshama qui est Dieu. Non, tout est Dieu. Même la table que vous avez devant vous, c'est Dieu.
Cette idée, c'est sûr, le concept, on arrive à le saisir, mais cette idée, elle est dangereuse, elle peut nous faire reculer aussi.
Pourquoi?
Parce qu'on peut se dire finalement, comme je suis parti intégrant, quelque part.
Donc j'ai rien à prouver.
Et je me dissocie jamais.
Tu as raison, c'est une bonne question. Et c'est pas seulement ça. Je me dis, si je fais une bêtise, c'est pas moi qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait.
Non, voilà.
Non, là, on parle de responsabilité, là.
Voilà. Voilà, je suis pas dissocié. C'est combien, dans un sens ou dans un autre, on se demande finalement.
Tu as raison. Ton argument, c'est l'argument du Yetzer Hara qu'on a expliqué dans le chapitre 19. Ouais. On a dit que qu'est-ce qu'il dit Yetzer Hara à la personne? Il lui dit, t'inquiète pas, d'accord? Tu fais la vera, tu seras pas séparé de Dieu. Mais quand tu vas rentrer dans l'église, là tu seras séparé de Dieu. Et qu'est-ce qu'il avait expliqué dans le chapitre 19? Il a dit que c'est faux. Il a dit que dans l'un comme dans l'autre, tu te sépares jamais de Dieu. Tu peux pas te séparer de Dieu. Ça n'existe pas. C'est impossible de se séparer de Dieu. Parce que tu es Dieu. Donc on peut pas se séparer de Dieu.
Le 19, c'était une notion.
Et c'est, vous savez d'où vient ce piège en vérité? Oui. Le piège vient parce que comme on dit souvent qu'on est les enfants de Dieu, un enfant peut se dissocier de son père. Il peut. Ça veut dire, bien sûr qu'il ne peut pas arrêter d'être le fils de son père, mais il peut se dissocier de son père. Il peut dire, il y a mon père, il y a moi. Mon père m'a généré, mais maintenant, je suis une entité à part. Bien sûr, c'est le cas, d'accord? Mais nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu dans le sens que c'est lui qui nous a générés, mais on n'est à aucun moment indépendant de Dieu. Ça n'existe pas. On ne peut pas, c'est impossible, c'est pas possible. C'est-à-dire, t'as beau te sauver où tu veux, tu ne peux pas te sauver de Dieu.
Alors pourquoi il y a une notion d'avéra de...
Même question, j'y arrive. Okay. Et déjà, on arrive à un point important. Si on arrive à accepter ça, que tout est Dieu, je peux vous dire qu'on a écarté beaucoup de problèmes dans la vie. C'est-à-dire, quand quelqu'un m'énerve, par exemple, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme je veux, ce n'est pas des trucs qui sont passés par hasard. D'accord? Le mot nature n'existe pas chez nous. Teva, hateva, c'est la valeur numérique de Elohim, de Dieu. Le mot nature n'existe pas. Nature, c'est Dieu qui est caché, c'est tout. C'est-à-dire, Dieu, il te fait des choses que des fois, il ne te montre pas qu'il est là. Mais il y a deux options dans le monde. Il y a soit Dieu il me montre qu'il est là, soit il me montre pas qu'il est là. Mais dans tous les cas, c'est lui qui fait tourner les choses. C'est très important de se le rappeler, ça. Quand Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça se remémorer constamment que c'est pas moi qui gère, c'est Dieu qui gère. Des fois il le montre, des fois il le montre pas, mais c'est Dieu qui gère. C'est très compliqué.
Qu'est-ce que ça lui apporte, tout ça? Voilà, c'est lui.
C'est une bonne question. C'est une très bonne question ce que vous posez.
Bah oui.
C'est une raison. Qu'est-ce que ça lui apporte? C'est
la raison. Ça sert, quoi, en fait.
Quoi ça sert?
Le créateur.
Parce que là, on a l'impression qu'on mouline dans le vide, quoi.
Bah oui.
Je dis, mais attends, bon.
Parce qu'il est au-dessus de nous. Voilà. Tout ça. Bon, nous, on est des petits.
Voilà, tu dis, vas-y, accélère, oui, casse-toi la tête, et on lui dit, bon, de toute façon.
C'est pas petit, tu fais partie.
C'est une très bonne question. Une très bonne question. Mais pour avoir la réponse à cette question, vous allez devoir attendre le chapitre 36.
Dans deux ans.
Sérieux?
Avant de verra home.
Non, vous pouvez prendre le livre si vous voulez. Il y a le tome 2, vous voyez, le chapitre 36.
Dans deux ans, quoi.
Le créateur et le créé ne font pas toujours qu'un.
Et c'est ça le piège. C'est quand on dit créateur et créé, ils font deux quand on réfléchit dans notre approche. Parce que je donne un exemple. Par exemple, cette table, elle a été créée par un artiste.
Ouais.
Vous êtes d'accord avec moi?
Le modèle, hein, pas la table.
D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? La table a été créée par un artiste? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, comment on a fait pour faire cette table?
Comment quoi?
Comment on a fait pour faire cette table?
On a coupé du bois, on a mis des...
Très bien, on a coupé du bois. Est-ce que l'artiste a créé le bois?
Non.
Donc, qu'est-ce qu'a fait l'artiste, finalement?
Il a travaillé la matière.
Attention, mais attention, il y a un problème, là.
Il a travaillé la matière.
Donc, l'artiste n'a pas créé. On parle de création, parce qu'on appelle ça une création. Mais il n'a pas créé, il a façonné. Nous, on ne peut pas créer.
Non, il a la matière. Bon,
on ne peut pas créer. L'homme ne peut pas créer. Même quand on va procréer, on ne crée pas.
Disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
crée. Oui, évidemment,
ça,
évidemment.
C'est Lavoisier qui a dit
non,
ça.
Non, mais il a raison, mais c'est la vérité.
Non, mais à part ça, est-ce qu'on peut créer une paire de lunettes, par exemple, si on n'a pas la matière? Est-ce que quand on a la matière, on peut penser à créer la
Benita, paire de lunettes? Nous, on ne crée rien. On fait que façonner.
Non.
Comment on fait le verre des lunettes, Abraham?
Avec du sable.
On a pris du sable, on a fait du verre. Maintenant, on a une chorma qui va faire en sorte qu'on va affiner, qu'on va te le mettre anti-rayure, vas-y, mets-moi toutes les options, là.
Anti-reflet.
Anti-reflet, etc. D'accord?
Imagine avec du
sable. Incassable, d'accord?
Avec des essuie-glaces, j'ai compris, Mandy, où tu veux venir.
D'accord. Ça veut dire qu'en vérité.
Dieu n'est pas un façon, c'est pas quelqu'un qui.
Dieu n'a pas façonné. Nous, les hommes, on façonne.
De rien, il fait quelque
chose. Donc, comme nous, on façonne, donc, pour répondre à la question, Abraham. Comme nous, on façonne. Donc, moi, j'ai façonné le verre, par exemple. J'ai pris du pétrole, j'ai façonné un verre. Le verre et moi sont deux entités différentes parce qu'on a toujours été des entités différentes. Sauf qu'à un moment donné, de l'histoire de ce plastique, de ce pétrole, j'ai eu une influence sur lui en le façonnant. Mais une fois que je me retire, bah, il reste ce qu'il a toujours été. Par contre, Dieu, donc on parle pas de création, on parle de façonner. Par contre, Dieu, Dieu ne façonne pas, Dieu il a créé. Un créateur, par définition, ne peut jamais créer ce qu'il a créé.
C'est pas un transformateur. Ne peut jamais quoi?
Ne peut jamais quitter, pardon, ce qu'il a créé. C'est pas possible. Il forme toujours un seul élément. Mais encore une fois, on a du mal à comprendre parce que nous, on est créé. On ne sait pas ce que c'est un créateur. On nous sommes une partie d'Akadosh Baruch Hu.
Oui, mais enfin, on... Non, mais t'es pas d'accord avec le fait qu'on peut expliquer aussi qu'il a mis une énergie qui va durer un certain temps et ensuite il a se retiré, il n'y a que l'énergie qui continue.
Mais non, on ne peut pas dire ça non plus.
Pourquoi?
Parce qu'il n'y a rien qui peut échapper à Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Hashem Echad.
J'ai pas dit que ça n'échappe pas, c'est toujours sous son contrôle.
Ben, s'il veut, il aurait pu faire ça aussi.
Mais il peut être extérieur.
Mais notre émouna, c'est quoi l'émouna de Hashem Echad? C'est pas de dire le monde n'existe pas. C'est pas ce que j'ai en train de dire. C'est notre émouna, c'est d'essayer au maximum de tout ramener à Kadosh Baruch Hu. Et sur ça, d'ailleurs, on voit une différence fondamentale entre les tzadikim, c'est-à-dire ceux qui sont en haut de l'échelle spirituelle, et les stars, etc., ceux qui sont en bas de l'échelle spirituelle. Dans l'échelle spirituelle, plus on monte, et plus on réduit pour amener un élément qui s'appelle Dieu. D'accord? Dans l'échelle matérielle, plus on descend, et plus il y a moi. Il y a plein de moi, des moi qui prennent toute la place. Ça veut dire que dans le spirituel, le but, c'est quoi? C'est l'Echad. De monter en Echad, pour, chaque fois tu arrives à la conclusion qu'en vérité, ce que tu crois être ces plusieurs éléments, en vérité, tu réduis, et plus tu avances dans la vie, et plus finalement tu réalises qu'en vérité tu gères rien du tout, que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout ça. Ça, c'est le Hashem Echad.
Excuse-moi.
Oui.
Tu dis qu'on est tous à des
rapports. Oui, mais alors. Oui.
Si. Non, mais les non-juifs aussi.
Tout est Akadosh Baruch Hu. Oui, excusez-moi, parce que je vais juste prévenir quelqu'un pour, il m'a dit pour Arvit. Alors. Arvit à... C'est ouvert. 21h50. Voilà. Je pense pas que c'est M. Cohen. Ok. Alors, je continue. Pardon.
Alors, si vous dites que Dieu gère tout...
On est d'accord.
Alors, dans le même temps, pourquoi ce même Dieu nous a-t-il donné le libre arbitre?
Pourquoi il nous a donné le libre arbitre? Attendez, alors, est-ce que vous croyez vraiment que vous avez le libre arbitre?
Ben oui.
Vous êtes sûr?
J'ai le libre arbitre de boire, de sortir, de venir,
d'accord,
de partir.
Je vais vous donner un exemple. Imaginez par exemple que vous allez pour aller faire une mitzvah et vous glissez sur une peau de banane, vous cassez la figure. Vous faites pas la mitzvah. Ça vous est pas arrivé? Bon. Imaginez que vous allez pour faire la Avera. Pourquoi Dieu vous a pas mis une peau de banane dans la route pour vous faire glisser?
Ah oui.
Mais ça n'a rien à voir avec le...
Attends, écoutez ma question. Je peux décider... Est-ce que je peux décider l'issue de ce que je vais faire?
Non. Je ne peux pas décider de la situation, de ce qui va devenir dans 10 minutes, un quart d'heure, quand je vais rentrer chez moi. Je ne peux pas décider, mais je peux décider de partir à 8h ou à 10h ou à 8h05 ou...
Mais ça dépend de trop de paramètres.
C'est ça le libre-arbitre.
C'est ça le problème. Mais ça dépend trop de paramètres pour être capable de déterminer, de dire, est-ce qu'on maîtrise ou on ne maîtrise pas? C'est ce que je veux dire ici. Donc on va reprendre. Alors, dans les mots, pirouche, hu mamash, blishum shinui, kedirtiv, ani hachem, lo shaniti. Comme c'est écrit, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? C'est écrit, Dieu il dit, moi Dieu, je n'ai pas changé. D'accord? Ça veut dire quoi Dieu il dit qu'il n'a pas changé? Est-ce qu'on pensait que Dieu il a changé? Ça veut dire quoi?
C'est quoi la faute de Dieu Hegel?
Ok, on va y arriver. Ki olam hazeh, car ce monde, vechen kol ha'olamot ha'elyonim, ainsi que tous les mondes spirituels, Enam poalim shum shinui be'ardoto yitbarer, ne peuvent produire aucun changement dans l'unicité de Dieu, be'ibara me'ayin leyesh, lorsqu'ils sont créés du néant à une création. Ils ne peuvent créer aucun changement. Shekmo shaya hu levado hu yachid meyuchad kedem ibaram, là j'accélère parce que j'explique à l'oral. On est à la suite, on continue.
Ouais, merci.
Shekmo shaya hu levado yachid meyuchad kedem ibaram, de la même manière que Dieu était seul et unique avant de les avoir créés. Ken hu levado hu yachid miyuchad achar shebara'am, de la même manière Dieu reste seul et unique après qu'il les a créés. Mishum, parce que de kule kame kelo chashiv ou ke ain ve efes mamash, puisque tout devant Akadosh Baruch Hu est considéré comme rien, comme néant, c'est considéré comme rien, comme rien. D'accord?
Dieu.
Oui.
Étant donné que nous sommes une petite partie de Dieu, pourquoi nous-mêmes nous n'avons pas une possibilité de faire des petites créatures?
Très bonne question. On dit que, vous savez qu'il y a une chose sur laquelle nous les hommes, on est comme Dieu. Vous savez c'est quoi? C'est la procréation. C'est quoi le concept de la procréation? Attendez.
Non, puisque les animaux aussi peuvent faire pareil.
Oui, il n'y a pas de problème.
Les êtres vivants.
Les êtres vivants. Comment ça marche la procréation? Je vais simplifier. On va parler par exemple, on va planter une graine. Une graine pour faire pousser du blé. Ou un arbre. Je prends la graine. Qu'est-ce qui se passe avec cette graine?
Elle pourrit.
Elle pourrit. Elle pourrit jusqu'à combien?
Jusqu'à ce qu'elle se désagrège.
Complètement. Et après, qu'est-ce qui se passe?
C'est les...
C'est le
résidu qui fait que...
Donc ça veut dire qu'on a créé une existence du néant.
C'est la génération spontanée.
Enfin, on ne peut pas dire ça.
Mais... Ah, voilà. C'est bon. On ne peut pas dire que c'est vraiment du néant, parce que... C'est,
on a, y avait quand on même... a mis la graine.
Mais quand même, on a vu que la graine, elle est passée au néant. Donc c'est expliqué en Chassidout que ça, c'est une chose sur laquelle on voit une similitude entre Dieu et les hommes. Enfin, si on peut dire. C'est-à-dire que Dieu, il nous a mis une petite chose dans laquelle on peut créer.
Oui, mais alors...
C'est une pseudo-création, c'est pas une vraie création.
C'est vrai, mais cette explication, elle n'est pas tout à fait vraie. Pourquoi? Parce que tout au début, vous avez dit, il s'adressait aux Bnei Israël. Ce sont les Bnei Israël qui ont une partie de Dieu.
Alors, j'ai pas eu le temps de répondre tout à l'heure à la question.
La procréation,
je sais plus qui a posé la question tout à l'heure, il a dit, est-ce que même les goïms, je crois que c'est
toi. Oui, d'accord.
La réponse était oui. C'est que ça change pas.
Oui, mais au début.
Là, sur ça, il n'y a pas de différence. Si vous voulez, il y a des différences une fois qu'on est déjà installé. C'est-à-dire qu'il y a les joueurs sur place, tout est sur place. Là, on dit, bon, il y a les bons joueurs, il y a les mauvais joueurs, il y a les acteurs, il y a les figurants. Bon, d'accord? Nous, on est les acteurs, il y a d'autres, c'est autre chose. Mais pas de problème. Mais ça, c'est une fois qu'on est sur place. Le but d'un juif, c'est d'essayer de remonter à la source. Et quand tu remontes à la source, tu comprends qu'en vérité, tout ça, c'est pas que c'est du faux, mais tout ça, en vérité, ça revient à un élément qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et plus tu avances, et plus tu comprends que c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, quand tu vas voir un tzaddik, par exemple, le tzaddik ne va pas dire « moi, je pense que moi ». Pourquoi il ne dit pas « moi » ? Parce que plus il avance, et plus il comprend qu'il n'est rien, et que tout revient à Kadosh Baruch Hu. Alors que l'autre côté, c'est le contraire. Plus on avance, plus on réalise qu'on est à Kadosh Baruch Hu. On va juste avancer quelques lignes dans les mots. Vous avez d'autres questions ? Non ? Tout est clair. Alors, juste pour faire un petit résumé, parce qu'on a eu pas mal de notions, je veux pas qu'on se perde. Notre but, c'est d'expliquer pourquoi le premier commandement, et le premier mot du premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'éternel ton Dieu, résume à lui seul toute la Torah. En vérité, ce commandement-là nous rappelle un autre passage qui s'appelle Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Et on a expliqué que le but du Hashem Echad, c'est pas de te dire qu'il y en a un et qu'il n'y en a pas deux. Parce que sinon on aurait dû dire Hashem est unique. C'est pas ça le but. Le but, c'est de te dire que Dieu est un, ça veut dire que tout est à ramener à Dieu. Et que le monde et tout ce qu'il contient, etc., c'est un seul élément qui s'appelle Dieu.
On aurait pu dire Dieu est tout.
Dieu est tout, exactement. Eh ben non. Ah, très bonne question. Il va développer dans la suite. Si tu dis Dieu est tout, ça laisse entendre quand tu dis tout, ça veut dire quoi? Tout, ça veut dire c'est un ensemble de plusieurs choses. Or, c'est faux. Dieu n'est pas un ensemble. Dieu, c'est un et c'est tout.
Tout, c'est un pluriel.
Et ça, on le voit dans la science. On le voit vraiment que plus on avance et plus on réduit. Plus on revient, c'est-à-dire que avec les avancées, ma chère, il ne manquera pas beaucoup. Il devra nous montrer qu'en vérité, on revient à un élément, un seul, pas deux, pas un ensemble, un élément.
L'exemple tout à l'heure du chat de l'aiguille, c'est normal. Il fait allusion à la lumière.
Mais évidemment. Voilà, évidemment.
C'est normal que finalement, ça peut passer par le chat d'une aiguille.
Mais pourtant, c'est pas par hasard qu'on voit que dans le Zohar, par exemple, quand on parle de Dieu, on compare ça à la lumière. Parce que la lumière, c'est ce qu'il y a de plus raffiné que l'homme peut percevoir. Parce que la lumière, ça ne peut pas se toucher. C'est pas que se voir. D'accord? C'est ce qu'il y a de plus raffiné. C'est pour ça que dans la Kabbalah, souvent, on parle des émanations, des lumières, etc. Ça ne veut pas dire que Dieu, c'est une lumière. C'est la lumière, c'est la composante la plus raffinée à laquelle on a pu atteindre aujourd'hui. On ira plus loin, certainement. À mon avis, après la lumière, c'est Dieu.
L'univers.
Après la lumière, c'est-à-dire dans les composantes. Là maintenant, on est arrivé, les derniers éléments qu'on est arrivé aux dernières nouvelles, c'est la lumière. C'est des éléments de lumière, n'est-ce pas? D'accord? C'est le quartz, ce truc comme ça, c'est la lumière, ça. Ça, c'est la lumière. Le quartz, c'est la lumière.
Pourtant, il y a le contraire. D'accord? Il y a des trous noirs, c'est pas le contraire de la lumière.
Bonne question. Mais c'est quoi un trou noir?
Non, mais c'est de la matière.
Mais c'est quoi un trou noir? Attends, regarde. Regarde.
Non.
Mets tes yeux devant mon flash, qu'est-ce que tu vois?
La lumière.
Hein? Et elle est quelle couleur la lumière?
Elle est transparente.
Elle est quelle couleur la lumière? Elle est noire. Parce que trop de lumière, ça rend noir.
Ouais.
La lumière noire, c'est la lumière qui est trop forte.
Bon, on va arrêter là, je vous ai rendu fou aujourd'hui. Allez.
Non, mais. C'est pas ça, c'est que les conjoints, c'est.
Un mec qui vient pour tuer, je vais me sauver, je vais le faire.
Ah, il pose une bonne question. Dans ce cas-là, s'il y a un terroriste qui vient, Dieu présente pour tuer.
Pardon.
D'accord. Bah oui, tu vas dire, toutes les façons, c'est Dieu qui tue là. Alors, où est le libre arbitre? C'est une bonne question ce que vous posez. Toutes les questions que vous posez tournent autour du libre arbitre. On va arriver, on va développer ça dans la suite. C'est une bonne question. Quelle est la marge du libre arbitre? Est-ce qu'il aurait pu décider de ne pas le faire? C'est une bonne question.
Non, tu connaissais comme ça,
alors, j'ai pas. Tu vas pas me tuer. Non, c'est Dieu qui a décidé. Dans les mots. Mishum, Dekula Kame, alors on va prendre dans les mots.
Dekula Kame,
oui. Ici. Alors, on a les mots.
Oh, David.
Bonsoir.
Ah, c'est
alors,
c'est gentil.
C'est bon signe, il avait du monde.
Laisse la bouteille, attends.
En bas de la page.
Là, j'ai mes pédiens.
En bas de la page 160. Mishum, parce que Dekula Kame, qui est l'Orachiv, tout devant Akadosh Baruch Hu est considéré comme le néant, ou que Aïn Efes Pamash, c'est comme si qu'il n'existait pas. D'accord ? Bon. Alors, ça veut dire quoi ? Je vais expliquer ce qu'il dit ici. Et après, Bézant Hachem, on développera ça encore plus longuement la semaine prochaine. Parce que ça pose beaucoup de questions ce qu'on est en train de dire ici. Je développe. Le Zohar, il dit comme ça. Il dit, quand on analyse la réalité, il y a trois manières d'analyser la réalité. Rabotaï, suivez-moi, c'est compliqué. Vous me suivez ? Regardez Rabotaï. Il y a trois manières d'analyser la réalité de ce monde. D'accord ? Le cracker que j'ai devant moi, là, que je tiens dans la main. Trois manières de l'analyser. Je vais d'abord donner les noms et après je vais les développer. Memale Kolalmin, Sovev Kolalmin, Kula Kame Kalachashiv. C'est une notion qui est expliquée dans le chapitre 3 du Tanya. Et j'explique. Memale Kolalmin, ça veut dire, j'explique d'abord en français. C'est quoi Memale Kolalmin? Ça veut dire, je dis, Dieu est présent dans ce cracker. Bon, il est là, il y a le cracker, il est là, c'est un bon cracker que je vais goûter, qui a un goût, mais Dieu est dedans. Ça c'est Memale Kolalmin. Deuxième niveau. Deuxième niveau. Sauveur Kolalmin. Je lui dis, attends, tu sais quand même, bon, Dieu en vérité, il est beaucoup plus fort que tout ça. Ça veut dire que moi, c'est vrai qu'il y a un craquer qui reste là, mais Dieu est beaucoup plus fort que tout ça. Deuxième niveau. Troisième niveau, c'est quoi? Je réalise que Kula Kame Kalachashiv, que tout devant Dieu, est considéré comme rien du tout. Je vais donner un autre exemple. Par rapport à moi. Chacun de nous, par rapport à moi. Premier niveau, c'est de dire, bon, Dieu, il a une influence sur ma main, sur mon bras, sur mon cœur, sur ma santé, sur ma tête, etc. Premier niveau. Deuxième niveau, je dis, non, Dieu est beaucoup plus fort que moi. Mais il y a quand même moi. C'est-à-dire, il y a moi, il y a Dieu. Bon, il est plus fort que moi, il est plus fort. Okay, il me bat au bras de fer, mais il est plus fort que moi, mais moi, je suis là. Troisième niveau, c'est quoi? Kula Kame Kelachashiv, tout devant Akadosh Baruch Hu. J'arrive à comprendre que tout devant Akadosh Baruch Hu, en vérité, c'est considéré comme si qu'il n'existait pas. Et ça, en vérité, ça, c'est le but de Hachem Echad. Le but de Hachem Echad, c'est d'arriver à l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, de comprendre qu'en vérité, on n'est rien devant Akadosh Baruch Hu. Sauf que ça, ça nous pose un grand problème. Pourquoi ça nous pose un grand problème? Parce que dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on sent qu'on existe? Comment ça se fait qu'on sent qu'on est quelque chose? Comment ça se fait que je suis différent que vous? Cette sensation de libre arbitre, cette sensation de différence, c'est vrai ou c'est faux? Quand on dit « Bereshit bara Elokim et Hashemayim et Haaretz », quand c'est écrit dans la Torah, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est vrai ou c'est faux qu'il a créé le ciel et la terre? Est-ce que c'est vrai qu'il a créé? C'est une illusion, peut-être qu'on est dans une illusion. Peut-être qu'ici on est dans une illusion. Peut-être qu'on croit qu'il y a un monde, il n'y a pas de monde. Peut-être, c'est possible. Il ne va pas dormir lui ce soir le genre. D'accord? Alors, peut-être. D'accord? Peut-être qu'il te dit. Peut-être que j'existe pas. Qui te dit que tu existes? Mais la Torah le dit. La Torah, c'est notre père. La Torah. Mais alors pince-moi. Qui te dit? C'est une preuve? Parce que. Mais je suis sérieux, je suis très sérieux. Quel est mon repère de vérité? C'est une preuve? C'est quoi ma preuve? Ma preuve, c'est que la Torah est un indicateur de vérité. Et si la Torah me dit que Dieu a créé, c'est-à-dire que Dieu a créé. Mais c'est-à-dire que Dieu il a créé, ça veut dire qu'en d'autres termes, moi j'ai le sentiment que je fais ce que je veux. Si je veux, je fais une mitzvah, si je veux, je fais une avéra. Ce sentiment, c'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai.
Des fois, l'avéra, tu veux pas la faire,
c'est
tu
vrai.
La fais quand même.
Bah, concrètement, c'est vrai.
Mais tu me dis, alors dans ce cas-là, ça veut dire que je suis indépendant par rapport à Dieu. Alors c'est faux. Si tu dis que c'est faux, dans ce cas-là... Pourquoi je sens comme ça?
Arbitre, alors, si c'est faux.
Pourquoi je sens comme ça? Vous comprenez ma question?
Oui.
Yves, t'es avec nous?
Oui.
Je reprends la question. Alors, je reprends la question. Ma question est très simple. C'est, puisqu'on est en train de raconter depuis tout à l'heure, qu'en vérité, tout est à ramener à un seul élément qui s'appelle Dieu. Donc, ça veut dire que la matière n'a pas son indépendance. la matière n'a pas d'indépendance. Donc on n'a pas d'indépendance, donc on devrait être plus un seul élément. D'accord ? Comme le communisme l'a dit. Alors comment ça marche dans ce cas-là ? Comment ça se fait qu'on se sent qu'on est différent ? C'est vrai ou c'est faux cette sensation ? On sent qu'on a un libre arbitre, on sent que des fois on fait les choses bien, des fois on fait les choses mal. Est-ce que tout ça c'est du pipeau ? Est-ce qu'en vérité on décide rien du tout ? C'est Dieu qui décide tout ?
Ben, d'après le texte, c'est Dieu qui décide tout, c'est pas nous.
Non, alors,
maintenant, nous on a la sensation qu'on décide
alors,
tout.
Ah, il a dit un très bon point, M. Benita. Ah ouais. Il a dit on a la sensation.
Du point de vue de l'homme.
Mais est-ce que cette sensation est vraie ou fausse ?
Elle est vraie. C'est une illusion.
C'est quoi, c'est une illusion ?
Non, mais elle est vraie.
On nous donne l'illusion qu'on décide, qu'on détermine, etc.
Imaginez, par exemple, que mon fils ne marche pas. Pourquoi le petit, il ne marche pas ? Un bébé, il ne marche pas. Et qu'on le prend par les bras. Ma femme et moi, on le prend par les bras, on va marcher avec lui. D'accord ? Qui c'est qui le fait marcher ?
C'est vous.
C'est nous, les parents. On a imaginé, que lui, il a une illusion qui marche tout seul. C'est vrai ou c'est faux ?
Non, c'est vrai, il a raison.
C'est vrai qu'il marche tout seul ?
Non.
Ben non, c'est faux qu'il marche tout seul.
Pour lui ?
Pour lui. Mais c'est faux, il marche pas tout seul. Mais pour lui, il peut s'imaginer qu'il marche tout seul. Ça veut dire que c'est quoi une illusion ? Une illusion, c'est quand tu crois quelque chose qui est faux en vérité. Donc, la conclusion à laquelle on va arriver la semaine prochaine, mais ça, il va nous falloir pas mal de Bezrat Hashem et un bon développement dans le cours Bezrat Hashem, d'expliquer quelle est la définition de l'indépendance qu'on a. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Quand je me sens indépendant, quand je me sens que c'est moi qui décide si je fais une mitzvah ou si c'est une avéra. D'accord ? Attends, deux secondes, doucement. Bien sûr qu'on a la réponse dans la suite, c'est évident.
Non, mais non, dans les chapitres d'avant.
Non, on n'a pas parlé de ça.
On a décidé, c'est de choisir le bien.
Non, ça, on n'a pas parlé de ça. L'indépendance, on n'a pas parlé de ça. La notion d'indépendance, c'est de...
On a un choix, alors.
On est ?
On a un choix, parce qu'on a l'indépendance.
Alors, si tu dis qu'on a un choix, c'est-à-dire j'aurais pu dire non.
Tu crois qu'on a un choix ? C'est ce que tu viens de nous dire. La prochaine, on va développer ça.
Ah bah, évidemment. Donc ça c'est la question qui nous reste ici. La question qui va nous rester, Bezrat Hashem. Et là maintenant, on va commencer. Jusqu'à maintenant, c'était que des questions. À partir de la semaine prochaine, si Dieu veut, fin du chapitre 20 et chapitre 21. On va commencer à expliquer.
On est
dans le 20, oui.
On a le choix des propositions qui nous proposent.
Oui, mais si tu as le choix, tu aurais pu dire non.
Non, j'ai le choix des propositions qui me proposent.
Mais j'aurais pu dire non dans ce cas-là.
On est petit. Non.
Est-ce que ça veut dire, excuse-moi de te donner un exemple. Là maintenant, j'ai une avéra devant moi. Je peux la faire comme je peux ne pas la faire.
Oui.
D'accord ? Est-ce que c'est moi qui décide l'issue de cette situation ou c'est Dieu ?
C'est Dieu, toi. Mais il te la propose.
Mais c'est moi qui décide ou c'est Dieu ?
C'est toi qui décide.
Donc ça veut dire que Dieu dépend de moi.
Non, c'est Dieu qui décide.
Ah bah oui.
Non.
Mais il te propose.
Je comprends pas. Je demande à mon fils, je lui dis, va me faire ça s'il te plaît. Avec son arbitre, il peut décider de ne pas le faire. Ça veut dire que je dépends de mon fils. C'est-à-dire, s'il le fait, ben, je l'aurai. S'il le fait pas, je l'aurai pas.
Ouais, mais chaque chose, on peut les faire bien.
Je l'envoie faire une course. Mais s'il l'a fait, je l'aurai, hein.
Je demande rien.
Mais c'est sûr qu'il m'a donné des mitzvot.
Non.
Quoi, rien?
Non, il ne demande rien. Ça
change rien pour le tuto.
D'accord.
Ça change. Je te dis à toi.
Oui.
Je t'ai créé. Je sais ce qui est bon pour toi en tant que ton créateur.
Le ton.
Fais ça, ça te.
Mais qu'est-ce que moi je lui change?
J'ai rien besoin.
Mais est-ce que moi je suis indépendant par rapport à lui?
Non, t'es pas indépendant.
Je suis pas indépendant.
Non.
Alors pourquoi il fait pas tout seul alors?
Qui?
Pourquoi Dieu ne fait pas tout seul?
Mais c'est quoi
mon bien? C'est pas de moi, mais moi c'est Dieu.
Non mais Abraham, c'est pas Dieu pour ce qui est bien pour toi. Si tu fais des choses qui ne sont pas bien, tu viens pour moi. Tu n'en sais rien. Tu vas pas. Mais bon, j'ai envie de me faire un kiff sur de faire des choses qui ne sont pas bien. Tu vas te dire ah c'est bien pour ton corps.
Dis-moi. Ok. Quand tu achètes une voiture, tu vois, c'est le garagiste qui va te dire ce qui est bien pour ta voiture. C'est pas toi qui va penser à dire bah moi pour ma voiture je vais lui mettre de la crème fraîche.
C'est écoute ton médecin.
C'est le garagiste qui va dire. Si tu l'as créé, il t'a dit, la Torah c'est bien pour toi.
Alors, Rabotai, je vous donne maintenant un preview de la semaine prochaine. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, Zrat Hashem. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, si tu veux, dans la suite du chapitre 20, ce qu'on va faire, on va expliquer pourquoi on est obligé, monsieur Benita, c'est pour vous ça, on va expliquer pourquoi on est obligé de dire que, même si on l'accepte pas, que toute l'humanité, tout est rien, tout est néant devant un Kadosh Baruch Hu. Il va nous mettre sur la tête. Il va nous expliquer comment en vérité on est rien devant un Kadosh Baruch Hu. Mais à la fin, on devra arriver à une réponse. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vaut notre libre arbitre ? Qu'est-ce que ça vaut tout ça ? Il va prouver, il va expliquer qu'en vérité, on ne vaut rien. Et que le sentiment d'indépendance qu'on a est un sentiment, pour répondre à ta question, qui a été créé par Dieu. Et je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez l'exemple que je vous donnais tout à l'heure ? Avec le papa et la maman qui tiennent le bébé. Et bien, imaginez que Dieu fait un miracle, que le bébé ne se rend plus compte qu'il y a son père et sa mère qui le tiennent.
Qui marche seul. Il marche vraiment le sentiment.
Mais non ! J'ai pas dit que ses parents sont plus là. J'ai dit qu'on lui donne le sentiment qu'il voit plus ses parents. Donc lui, quand il voit qu'il marche, donc il dit, quand il voit que je marche, il dit, mais qui c'est qui marche? Il dit, mais c'est moi qui marche. Mais en vérité, qui c'est qui fait marcher? C'est Akadosh Baruch Hu. Et bien, ce qu'on va expliquer, Bezrat Hashem, mais on va développer ça longuement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créé un sentiment d'indépendance, un ressenti d'indépendance.
Dans quel but?
D'accord? Dans le but de nous donner le libre arbitre.
Pourquoi?
Parce que si on n'a pas le libre arbitre, on peut pas être autonome. Et même l'autonomie qu'on a, c'est pas une vraie autonomie, c'est un sentiment d'autonomie.
On peut pas mesurer l'importance.
D'accord, ça, c'est chapitre 36, c'est sa question. Chapitre 36, ça veut dire expliquer pourquoi Dieu veut les mitzvot. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la conclusion à laquelle on va arriver, et ça je peux vous la dire depuis maintenant, c'est que, en vérité, il n'y a pas d'autonomie. Ah, pourtant je crois que je suis autonome. Eh ben, cette autonomie est une illusion qu'Akadosh Baruch Hu a donnée. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, il a posé la question à Avraham, on va finir avec ça ici pour aujourd'hui. Il a donné un exemple, il a posé une question, il a dit, mais pourquoi on peut pas dire que Dieu, il a lancé une énergie, cette énergie maintenant est indépendante? Le Tanya, dans Shar Echut Ve'emouna, on fera dans quelques années, Bezrat Hashem, il donne un exemple très simple. Il dit, imaginez par exemple, tu prends un ballon, tu le jettes en l'air. D'accord? C'est quoi la nature du ballon? C'est de monter en haut ou de descendre?
De tomber.
Parce qu'il est attiré par la pesanteur, donc l'attraction terrestre. Quand je prends le ballon, je le jette en l'air, qu'est-ce qui se passe?
Il a le sens.
Pourquoi il va en haut? Parce qu'on a exercé une pression d'énergie qui est plus forte que l'énergie de l'attraction terrestre. On est d'accord? L'attraction terrestre l'attire. Et moi, j'ai envoyé une contre-force, une force, d'accord, qui est plus forte que l'attraction terrestre. C'est pour ça, tant que ma force est plus forte que l'attraction terrestre, le ballon monte en haut. Progressivement, ma force se diminue parce que ma force est limitée. Et après, quand ma force s'arrête, qu'est-ce qui se passe avec le ballon?
Il
redescend. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer que le ballon, il reste en haut? Je dis, ah ben, je l'ai envoyé en haut, il reste en haut. Attends. Pas de l'hélium, je parle d'un ballon normal. Ce verre, là, tu vois ce verre? Voilà, ce verre, je le prends, je le jette. Hop, voilà, c'est bon, vous l'avez reçu?
Non, il ne peut pas rester là-haut.
Pourquoi il ne peut pas rester là-haut?
Parce qu'il y a une attraction terrestre.
Parce que la force est limitée. Ma force est limitée. Et que tant que tu veux que le ballon reste en haut, ce qui est contre sa nature, la nature du ballon, c'est quoi? C'est quoi la nature du ballon? La nature du ballon, c'est de tomber.
C'est pas la nature du ballon tomber. C'est pas la nature du ballon. C'est la nature de la Terre de la tirer.
Donc c'est la nature du ballon.
Non. C'est la nature du ballon. La Lune, il tombera pas.
J'ai compris. Mais la nature du ballon sur la Terre, la nature de l'objet sur la Terre.
Ben non, les satellites qu'on a envoyés autour de la Lune.
Il tombera pas.
Moins vite.
Oui, c'est pas qu'il tombera pas, il tombera différemment.
Il tombera plus lentement parce qu'il a une attraction.
Voilà. Ça n'existe pas quelque chose qui tombe pas en passant, mais bon. Il y a rien qui bouge pas. Il y a rien qui n'est pas en mouvement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Toujours.
Einstein. Mais ça n'existe pas.
Les corps stellaires, ils attirent quand même. Ils exercent une attraction.
Seulement à des moments, c'est des corps qui sont beaucoup plus grands qu'on ne sait plus qui tourne autour de qui et qui bouge devant qui. Mais c'est impossible, il n'y a rien qui ne bouge pas. Histoire des deux trains là. Bon. Alors, on reprend. On termine avec ça pour aujourd'hui. Je prends le ballon. Je le jette.
Alors, tu ne peux pas dormir. D'accord. Je ne vais pas dormir.
Eh bien, justement, on va terminer pour Serge. Je prends le ballon. Je le jette. Rabotaille, on se concentre. Juste une minute.
Je vais aller le bord.
Allez, je vais faire mon lit parce que sinon, on ne va pas s'arrêter. Alors, je prends le ballon. Je le jette en l'air. La nature du ballon, c'est quoi? C'est de tomber. Ça, c'est la nature ici-bas sur Terre. Maintenant, quand j'exerce une pression au contraire, qu'est-ce qui se passe? Ma pression est plus forte que la nature. Mais dès que ma pression s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Il revient tout de suite à sa nature. Maintenant, ce qu'on va expliquer la semaine prochaine, c'est quoi la nature de tout objet? La nature de tout objet, c'est de s'annuler à Kadosh Baruch Hu, donc de ne pas avoir d'indépendance. Si tu veux qu'il y ait une indépendance, c'est comme le ballon que tu envoies contre sa nature. Donc pour qu'il tienne, tu es obligé constamment de le maintenir. Dieu est constamment, à chaque instant, chaque seconde, il est obligé de générer le sentiment d'indépendance qu'il y a chez nous. Il suffit qu'il arrête un seul instant de générer le sentiment d'indépendance, et qu'est-ce qui se passe? Le monde s'arrête d'exister. C'est comme une question qu'on pose en Chassidout. On dit, imaginez par exemple que Dieu, il décide un jour de détruire le monde. Comment il s'y prend?
En ne faisant rien.
Le Maboul.
Non. Le Maboul, il n'a pas détruit le monde.
C'est ce qu'il a voulu.
Non, le Maboul, il a façonné le monde. Il n'a pas détruit le monde. Si Dieu décide, ça y est, j'arrête l'existence, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Lavoisier a dit, d'accord, rien ne se perd, rien, tout se transforme. On peut rien détruire. La destruction n'existe pas. On peut que transformer. Comment Dieu fait s'il veut arrêter de créer le monde? C'est très simple. Il arrête de créer. Amechadesh betuvo bechol yom tamid ma'ase vereshit. Dieu y crée à chaque instant. S'il s'arrête de créer un seul instant, c'est pas que ça s'effondre. C'est que ça cesse d'exister. C'est comme le ballon. Ça veut dire t'arrêtes la pression, tout de suite il tombe. Il n'y a pas à dire, ah bah attends, on va réfléchir, on va descendre, peut-être, on va voir. Il n'existe pas. Dès que t'arrêtes la pression, il tombe. C'est fini. C'est ça. C'est la même chose. Donc on va revenir maintenant Bezrat Hashem sur ça, plus longuement, Bezrat Hashem, expliquer qu'est-ce que ça veut dire, comment en vérité toute l'existence se ramène à Kadosh Baruch Hu, et expliquer quelle est la notion Bezrat Hashem de livre en vie. D'accord. Serge, est-ce que j'ai répondu à tes questions? Quelle question t'es restée?
Non, mais bon, c'est très
c'est confus pour l'instant.
C'est dur.
Je repasserai couche la semaine prochaine. Non, je vous ai prévenu.
Il dit pourquoi il est là. Et après, il revient.
Mais Rabotai, je vais vous dire quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens qui vont rentrer chez eux ce soir, ils vont poser la question, ils vont dire, mais attends, mais pourquoi on parle de ça? Qu'est-ce qu'on raconte ces trucs-là? Pourquoi on a besoin de parler de ça maintenant? Il faut savoir comme ça. C'est écrit. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et Rav Maïmonide et Narpanide, ils expliquent les deux qu'il y a une mitzvah de chercher à comprendre l'unicité de Dieu. C'est une mitzvah. C'est ce qu'on est en train de faire ici autour de la table, on est en train de faire une mitzvah. De comprendre l'effort de réflexion qu'on fait pour essayer de se décomposer, parce que c'est ce qu'on fait en vérité, on se décompose. Je me décompose pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière moi. Eh bien, sachez que cet effort qu'on fait, c'est ça, Hashem Echad. C'est une mitzvah de faire ça. Hashem Echad, c'est-à-dire, quand maintenant, déjà, si je vais rentrer chez moi ce soir à la maison et que mon ego sera un peu moins gros, parce que je vais me dire, bon, bah, finalement, je suis pas si grand que ça, voilà, je me réduis, eh bien, chaque fois que t'arrives à te réduire et réduire vers un Kadosh Baruch Hu, tu fais une mitzvah. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, la mitzvah de Ha'amanat Elokut, la mitzvah de croire en Dieu. Yichud Hashem, de croire en l'unicité de Kadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah positive. C'est quoi la mitzvah? Mais ça y est, je crois, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est cet effort de faire. Maintenant, on commence à comprendre. On commence à comprendre beaucoup. Les gens, ils disent, les juifs, on est croyants. Mais bien sûr qu'on est croyants. On est croyants depuis qu'on est petit. C'est quoi l'effort? L'effort, c'est pas de croire. L'effort, c'est de ramener ça à la réalité et de réaliser qu'en vérité, tout est Dieu. Et qu'en vérité, mon ego, il vaut rien du tout. Il n'existe pas. C'est l'illusion, tout ça.
Mais enfin, tout ça, c'est, on le sait. On n'a pas besoin de toute cette paracha pour me dire.
La question, c'est pas si on le sait ou pas. La question, c'est est-ce qu'on le ressent? D'accord? Et est-ce qu'on l'accepte?
Moi, mon ego, il est encore plus fort, soit que je suis Dieu. Je ne savais pas avant de venir.
D'accord. Il y en a qui sont Charlie, il y en a qui sont.
Alors,
lève d'île. Bon, Rabotai.
Moi, j'étais dans une école qui s'appelait Ateret Israël, qui était dirigée par Rav Mordechai Yizrahi. Une fois, il est tombé dans ses escaliers à chez la maison, et la rabbinite, elle a crié « Ribbono de Shalom !» Il a dit « Arrête, ne m'appelle pas comme ça !»